Chapitre 10. Est-ce qu'il travaille ? Me demanda Augustin quand Olivier nous eut quittés. Fort peu. Et cependant, il apprend comme s'il travaillait. Tant mieux. Il a séduit la fortune. Si la vie n'était qu'une loterie, reprit Augustin, ce jeune homme rêverait toujours les numéros gagnants. Augustin n'était pas de ceux qui séduisent la fortune ni qu'un numéro rêvé doit enrichir. Ce que je vous ai dit de lui peut vous faire comprendre qu'il n'était pas né pour les faveurs du hasard et que, dans toutes les combinaisons où jusqu'à présent il avait mis sa volonté pour enjeu, l'enjeu représentait beaucoup plus que le gain. Depuis le jour où vous l'avez vu quitter les Trembles, tenant à la main une lettre reçue de Paris comme un jeune soldat muni de sa feuille de route, ses espérances avaient, je crois, reçu plus d'un échec, mais sans diminuer sa foi robuste, ni le faire douter une seule minute que le succès, sinon la gloire, ne fût à Paris même et juste au bout du chemin qu'il y suivait. Il ne se plaignait point, n'accusait personne, ne désespérait de rien. Il avait, sans aucune illusion, la ténacité des espoirs aveugles, et ce qui chez d'autres aurait pu passer pour de l'orgueil n'existait chez lui que comme un sentiment très exactement déterminé de son droit. Il appréciait les choses avec le sang-froid d'un lapidaire essayant des bijoux de qualité douteuse, et se trompait rarement sur le choix de celle qui méritait de lui de la peine et du temps. Il avait eu des protecteurs. Il ne trouvait pas que solliciter fût un déshonneur, parce qu'il ne proposait alors qu'un échange de valeurs équivalentes, et que de pareils contrats, disait-il, n'humilie jamais celui qui, pour sa part de société, apporte la pointe de son intelligence, de son talent. Il n'affectait pas de mépriser l'argent, dont il avait grand besoin, je le savais, sans qu'il en parlât. Il n'en déniait point les résultats, mais le mettait beaucoup au-dessous d'un capital d'idées que, selon lui, rien ne saurait ni représenter ni payer. « Je suis un ouvrier, disait-il, qui travaille avec des outils fort peu coûteux, c'est vrai, mais ce qu'ils produisent est sans prix quand cela est bon. » Il ne se considérait donc comme l'obligé de personne. Les services qu'on avait pu lui rendre, il les avait achetés et bien payés. Et dans ces sortes de marchés, qui de sa part excluait, sinon tout savoir-vivre, du moins toute humilité, il y avait une manière de s'offrir qui marquait au plus juste le prix qu'il entendait y mettre. « Du moment qu'on traite avec l'argent, disait-il, ce n'est plus qu'une affaire où le cœur n'entre pour rien et qui n'engage aucunement la reconnaissance. Donnant, donnant. Le talent, même en pareil cas, n'est qu'une obligation de probité. » Il avait essayé de beaucoup de situations, tenté déjà beaucoup d'entreprises, non par aptitude, mais par nécessité. N'ayant pas le choix des moyens, il avait l'application plus encore que la souplesse qui permet de les employer tous. À force de volonté, de clairvoyance, d'ardeur, il suppléait presque aux qualités naturelles dont il se savait privé. Sa volonté seule, appuyée sur un rare bon sens, sur une droiture parfaite, sa volonté faisait des miracles. Elle prenait toutes les formes, jusqu'aux plus élevées, jusqu'aux plus nobles, quelquefois jusqu'aux plus brillantes. Il ne sentait pas tout, mais il n'y avait rien qu'il ne comprît. Il approchait ainsi de l'imagination par la tension d'un esprit sans cesse en contact avec ce que le monde des idées contient de meilleur et de plus beau, et touchait au pathétique par la connaissance parfaite des duretés de la vie et par l'ambition dévorante d'en gagner les joies légitimes, fût-ce au prix de beaucoup de combats. Après avoir à ses débuts abordé le théâtre pour lequel il ne se jugeait ni assez recommandé ni assez mûr, il s'était jeté dans le journalisme. Quand je dis « jeté », le mot n'est pas exact, pour un homme qui ne faisait rien à l'étourdi et qui se présentait sur le champ de bataille avec cette hardiesse mêlée de prudence qui ne risque beaucoup que pour réussir. Plus récemment, il venait d'entrer comme secrétaire dans le cabinet d'un homme politique éminent. J'y suis, me disait-il, au centre d'un mouvement qui ne m'édifie point, mais qui m'intéresse et qui m'éclaire. La politique, à l'heure qu'il est, touche à tant d'idées, élabore tant de problèmes, qu'il n'y a pas d'études plus instructives ni de meilleurs carrefours pour une ambition qui cherche un débouché. Sa situation matérielle m'était inconnue, je la supposais difficile, mais c'était un des rares sujets sur lesquels il me paraissait interdit de l'interroger. Quelquefois seulement, cet inébranlable courage trahissait non l'hésitation mais la souffrance. Le stoïque Augustin n'en disait rien. Son attitude était la même, sa ferme raison toujours aussi claire. Il continuait d'agir, de penser, de résoudre, comme s'il n'avait jamais reçu la moindre atteinte, mais il y avait en lui je ne sais quoi, comme ces taches rouges qu'on voit paraître sur les habits d'un soldat blessé. Longtemps je m'étais demandé quelle partie vulnérable dans cette organisation de fer un mal quelconque avait pu frapper, puis je m'étais aperçu qu'Augustin, tout comme les autres, avait un cœur, et j'avais enfin compris que c'était ce pauvre et vaillant cœur qui saignait. Dès qu'il se fut assis et que je le vis croiser ses jambes l'une sur l'autre dans l'attitude d'un homme qui n'a rien à dire et qui entre en oubliant l'objet de sa visite, je m'aperçus bien qu'il n'était pas lui non plus dans des dispositions riantes. « Et vous aussi, mon cher Augustin, lui dis-je, vous n'êtes pas heureux ?» Vous le devinez, me dit-il avec un peu d'amertume. Il le faut bien, puisque vous avez l'orgueil de ne pas l'avouer. Mon cher enfant, reprit-il, dans ces formes un peu paternelles qu'il n'abandonnait pas et qui donnaient un certain charme à la roideur de ses conseils, la question n'est pas de savoir si l'on est heureux, mais de savoir si l'on a tout fait pour le devenir. Un honnête homme mérite incontestablement d'être heureux, mais il n'a pas toujours le droit de se plaindre quand il ne l'est pas encore. C'est une affaire de temps, de moments et d'à propos. Il y a beaucoup de manières de souffrir. Les uns souffrent d'une erreur, les autres d'une impatience. Pardonnez-moi ce peu de modestie, je suis peut-être seulement trop impatient. Impatient et de quoi ? Peut-on le savoir ? De n'être plus seul, me dit-il, avec une singulière émotion, afin que si jamais quelque nom, je n'en sois pas réduit à ce triste résultat d'en couronner mon égoïsme. Puis il ajouta, « Ah, ne parlons pas de ces choses-là trop tôt. Vous serez le premier que j'en instruirai quand le moment sera venu. Ne restons pas ici, me dit-il au bout d'un instant, cela sent la déroute. Ce n'est pas qu'on s'y ennuie, mais on y contracte des envies de se laisser aller. » Nous sortîmes ensemble, et chemin faisant, je le mis au courant des motifs particuliers de lassitude et de découragement que j'avais. Mes lettres l'avaient averti, et le reste lui était devenu bien clair. Le jour où Madame de Nièvre et lui s'étaient rencontrés, je n'avais donc pas eu l'embarras de lui expliquer les difficultés d'une situation qu'il connaît aussi bien que moi, ni les perplexités d'un esprit dont il avait mesuré toutes les résistances comme toutes les faiblesses. « Il y a 4 ans que je vous sais amoureux, me dit-il au premier mot que je prononçais. « 4 ans ?» lui dis-je, mais je ne connaissais pas alors Madame de Nièvre. « Mon ami, me dit-il, vous rappelez-vous le jour où je vous ai surpris pleurant sur les malheurs d'Annibal ? Eh bien, je m'en suis étonné d'abord, n'admettant pas qu'une composition de collège pût émouvoir personne à ce point. Depuis, j'ai bien pensé qu'il n'y avait rien de commun entre Annibal et votre émotion, en sorte qu'à la première ouverture de vos lettres, je me suis dit « je le savais ». Et à la première vue de Madame de Nièvre, j'ai compris qu'il s'agissait d'elle. Quant à ma conduite, il l'a jugée difficile, mais non pas impossible à diriger. Avec des points de vue très différents de ceux d'Olivier, il me conseillait aussi de me guérir, mais par des moyens qui lui semblaient les seuls dignes de moi. Nous nous séparâmes après de longs circuits sur les quais de la Seine. Le soir venait. Je me retrouvais seul au milieu de Paris, à une heure inaccoutumée, sans but, n'ayant plus d'habitude, plus de liens, plus de devoirs, et me disant avec anxiété « Que vais-je faire ce soir? Que ferai-je demain ?» J'oubliais absolument que depuis des mois, pendant un long hiver, les trois quarts du temps, je n'avais pas eu de compagnon. Il me sembla que celui qui agissait en moi m'ayant quitté, il ne me restait plus d'auxiliaire d'aujourd'hui pour se charger d'une vie qui désormais allait m'accabler de son vide et de son désœuvrement. L'idée de rentrer chez moi ne me vint même pas, et la pensée d'aller feuilleter des livres m'aurait rendu malade de dégoût. Je me rappelais qu'Olivier devait être au théâtre. Je savais à quel théâtre et dans quelle compagnie. N'ayant plus à me roidir contre une lâcheté de plus, je pris une voiture et m'y fis conduire. Je louai une stalle obscure où j'espérais découvrir Olivier sans être aperçu. Je le vis dans aucune des loges qui me faisaient face. J'en conclus ou qu'il avait changé de projet ou qu'il était placé juste au-dessus de moi dans cette autre partie de la salle qui m'était cachée. Ce désir bizarre et indiscret que j'avais eu de le surprendre en partie galante étant déçu, je me demandais ce que j'étais venu faire au pareil lieu. J'y restais cependant et j'aurais de la peine à vous expliquer pourquoi tant le désordre de mon esprit se compliquait de chagrin, d'ennui, de faiblesse et de curiosité perverse. Je plongeais les yeux dans toutes les loges peuplées de femmes. Cela formait, vu d'en bas, une irritante exposition de bustes à peu près sans corsage et de bras nus gantés très courts. J'examinais les chevelures, le teint, les yeux, les sourires. J'y cherchais des comparaisons persuasives qui pourraient nuire au souvenir si parfait de Madeleine. Je n'avais plus qu'une idée, l'impétueuse envie de me soustraire quand même à la persécution de ce souvenir unique. Je l'avilissais à plaisir et le déshonorais, espérant par là le rendre indigne d'elle et m'en débarrasser par des salissures. À la sortie du théâtre, et comme je traversais le péristyle, une voix que j'entendis dans la foule me fit reconnaître Olivier. Il passa tout près de moi sans me voir. Je pus à peine apercevoir la personne élégante et de grande allure qui l'accompagnait. Nous rentrâmes pour ainsi dire ensemble et j'étais encore en tenue de sortie quand il parut au seuil de ma chambre. « D'où viens-tu ? » me dit-il. « Du théâtre ?» Je lui nommai lequel. « M'as-tu cherché ? » ?»« Je n'y suis point allé pour te chercher, lui dis-je, mais pour te voir. »« Je ne te comprends pas, » me dit-il. « Dans tous les cas, ce sont des enfantillages ou des taquineries qu'un autre que moi ne te pardonnerait pas, mais tu es malade. » Et je te plains. Je ne le vis plus pendant 2 ou 3 jours. Il eut la sévérité de me tenir rigueur. Il s'informa de moi près de mon domestique, et je sus qu'il se préoccupait de mon état et me surveillait sans en avoir l'air. Chaque journée d'inaction m'épuisait et me démoralisait davantage. Je ne prenais aucun parti décisif, mais il me semblait que ma faiblesse allait s'abattre devant le premier accident qui la ferait broncher. Très peu de jours après, dans une avenue du bois où je me promenais seul en désespéré, j'ai vu venir une voiture légère, menée doucement et parfaitement attelée. Elle contenait 3 personnes, 2 jeunes femmes en compagnie d'Olivier. Olivier me découvrit à l'instant même où je le reconnus. Il fit arrêter, sauta lestement dans l'allée, me prit par le bras, et sans dire un mot, me poussa dans la voiture, puis après s'être assis à côté de moi, comme s'il se fût agi d'un enlèvement, il dit au cocher « Continuez !» Je me sentis perdu, et je l'étais en effet, au moins pour quelque temps. Des 2 mois que dura cet inutile égarement, car il dura 2 mois tout au plus, Je vous dirai seulement l'incident facile à prévoir qui le termina. D'abord, j'avais cru oublier Madeleine, parce que chaque fois que son souvenir me revenait, je lui disais « Va-t'en !» comme on dérobe à des yeux respectés la vue de certains tableaux blessants ou honteux. Je ne prononçais pas une seule fois son nom. Je mis entre elle et moi un monde d'obstacles et d'indignités. Olivier put croire un moment que c'était bien fini. Mais la personne avec qui je tâchais de tuer cette mémoire importune ne s'y trompa pas. Un jour, j'appris par une étourderie d'Olivier, qui s'observait un peu moins à mesure qu'il se croyait plus sûr de ma raison, j'appris que des nécessités d'affaires rappelaient M. d'Orcel en province et que tous les habitants de Nièvre allaient bientôt partir pour Ormesson. À la minute même, ma détermination fut prise et je voulus rompre. « Je viens vous dire adieu, » dis-je en entrant dans un appartement où je ne devais plus remettre les pieds. « Ce que vous faites, je l'aurai fait un peu plus tard, mais bientôt, » me dit-elle sans marquer ni surprise ni contrariété. « Alors, vous ne m'en voulez pas ? » « Aucunement, vous ne vous appartenez pas. » Elle était à sa toilette et s'y remit. « Adieu, » reprit-elle sans tourner la tête. Elle me regarda dans son miroir et sourit. Je la quittai sans aucune autre explication. « Encore une sottise !» me dit Olivier quand il fut informé de ce que j'avais fait. « Ah, sottise ou non, me voilà libre, lui dis-je. Je pars pour les Trembles et je t'emmène. Il ne sera pas difficile de les déterminer tous à venir y passer les vacances. « Aux Trembles ? Avec toi, Madeleine, aux Trembles ?» reprenait Olivier, dont cette brusque et téméraire décision renversait tous les plans de conduite. « Cher ami, lui dis-je, en me jetant follement dans ses bras, ne me dis rien, ne m'objecte rien. Je serai sage, je serai prudent, mais je serai heureux. Accorde-moi ces 2 mois, qui ne reviendront plus, que je ne retrouverai jamais. C'est bien court, et c'est peut-être tout ce que j'aurai de bonheur dans ma vie. » Je lui parlais dans l'entraînement d'un désir si vrai, il me vit si ranimé, si transformé par la perspective inattendue de ce voyage, qu'il se laissa séduire et qu'il eut la faiblesse et la générosité de consentir à tout. « Soit, dit-il, en définitive, cela vous regarde. Je n'ai pas charge d'âme, et c'est trop d'avoir à gouverner tout seul de fous comme toi et moi. »